Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Début août, un sommet États-Unis-Afrique se tiendra à Washington. Barack Obama, qui semble avoir entendu le reproche qu'on lui fait de ne pas s'intéresser au continent, ou très peu, reçoit les 5 et 6 août tous les chefs d'État africains, à l'exception de ceux du Zimbabwe, du Soudan et de l'Érythrée. Au menu de cette réunion inédite, les thèmes de la gouvernance, de la sécurité et des futures générations. Et justement, hier, le président américain a d'ailleurs reçu 500 jeunes entrepreneurs du continent. Il s'agit des lauréats Yali, l'initiative des jeunes leaders africains. C'est l'un des principaux programmes de Barack Obama pour l'Afrique. Alors, que vous inspire cette initiative? Plus largement, comment jugez-vous la politique africaine de Barack Obama? Et puis, qu'attendez-vous du sommet États-Unis-Afrique? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, et comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Un rendez-vous aujourd'hui entièrement consacré à vos nombreuses questions sur le crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. Et on accueille Jean Serra, pilote de ligne et ancien commandant de bord, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean Serra.
Oui, bonjour à tous nos auditeurs.
Merci en tout cas d'avoir accepté, Jean Serra, d'être à nos côtés pour répondre aux nombreuses interrogations justement de nos auditeurs sur ce crash qui, je le rappelle, a coûté la vie à 118 personnes. Et on passe au standard. Vladimir est en ligne à Bujumbura, au Burundi. Bonjour Vladimir.
Bonjour Zéphirin, bonjour à tous.
Bienvenue Vladimir, vous avez des questions, c'est vous qui ouvrez le feu, si je puis dire.
Voilà, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir à qui revient la responsabilité d'analyser les boîtes noires d'un avion. Mmh. Est-ce la compagnie aérienne, propriétaire de l'appareil? Est-ce le fabricant? Ou alors une tierce partie, c'est-à-dire la France dans le cas de l'avion de la Swissair?
Alors Jean Serra, les deux boîtes noires, on le sait, de l'appareil sont arrivées hier donc en France. Elles sont aux mains des enquêteurs du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Ce sont donc les experts de cette institution qui vont analyser les données enregistrées par ces boîtes noires. Pourquoi la France est-elle chargée de cette opération alors que l'appareil, si je crois, est immatriculé en Espagne et affrété par une compagnie algérienne?
Alors, tout d'abord, bonjour à Vladimir. Et la question, bien sûr, a été réglée déjà au niveau international. Il y a une organisation qu'on appelle l'OACI, qui regroupe l'ensemble des États, au niveau de la Terre entière. Mmh. Et on a décidé, enfin, cette OACI a décidé comment allait se passer les choses en cas d'accident. Mmh. Alors, le premier État qui est responsable de l'enquête, bien sûr, c'est l'État dans lequel s'est crashé l'avion. Donc le responsable en tête, c'est le Mali.
Oui.
Ensuite, bien sûr, sont directement impliqués l'aéroport de départ, donc on parle du Burkina Faso,
de Ouagadougou, donc. Oui.
L'aéroport d'arrivée, l'Algérie, mm-hmm. et bien évidemment l'État d'immatriculation de l'avion, c'est-à-dire l'Espagne. Mm. Ensuite se greffe en troisième niveau les pays qui ont des ressortissants à bord. Nous avons 14 États qui ont des ressortissants qui sont décédés à bord de cet avion, dont la France, mais de multiples autres pays. Voilà l'ensemble des gens qui sont responsables. Et je rajouterai en premier niveau avec l'État où s'est crashé l'avion, c'est-à-dire le Mali, il y a bien sûr le constructeur de l'avion, c'est-à-dire les États-Unis, puisqu'il s'agit d'un McDonnell Douglas. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a des accords sur place. Tous les États n'ont pas les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens en personne pour pouvoir gérer une situation catastrophique. Prenons par exemple si un avion se crashait sur... la principauté de Monaco,
oui.
La principauté de Monaco n'a pas les moyens, n'a pas les personnes pour faire ce genre. Donc, okay. elle va avoir recours à d'autres États pour venir l'aider. Okay. Dans le cas du Mali, il semble que dès le départ, il y ait eu un accord avec le gouvernement français pour que le gouvernement français, qui a les moyens techniques, les moyens humains, les moyens militaires, non loin, puisqu'on avait des troupes qui étaient basées à Gao, avec les troupes des Nations Unies, pour sécuriser la zone. Donc il semble que le Mali ait demandé à la France de gérer la partie analyse des boîtes noires, la partie recherche sur place des corps, la partie rapatriement des corps. Donc voilà pourquoi en ce moment on parle de la France, mais l'état principal c'est bien le Mali.
Et puis Jean Serra, il faut peut-être rappeler aussi que des institutions, des organismes comme le BEA sont très peu, des institutions de ce type-là sont très peu nombreuses hein, dans le monde, on en compte une dizaine, une douzaine je crois.
Tout à fait. Il y a très très peu d'États qui ont un service scientifique et technique développé. Bien sûr, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, la France, il y a le Japon, la Chine. Il y a beaucoup de pays, l'Australie, qui ont ce type de service, mais tous les pays n'ont pas cela, parce qu'il faut vraiment du matériel pointu, il faut des personnes qui soient particulièrement formées. Mais n'oublions pas que il y a l'aspect, on va dire, national. L'avion est tombé sur le Mali.
Oui.
Il y a le deuxième aspect, c'est une zone qu'on sait un petit peu instable en ce moment. Il y a l'aspect militaire. Donc il y a à la fois les Nations Unies, les Français, les Maliens qui sécurisent la zone. Et ensuite, il y a des experts qui viennent de partir, dans lesquels il n'y a pas que des Français. Hein. Il y a des Français, il y a des Hollandais, il y a plusieurs personnes qui arrivent sur place et qui, eux, vont maintenant faire les recherches essentielles pour comprendre ce qui s'est passé.
Très bien. Vladimir, voilà des éléments de réponse à votre première question. Vous avez une autre question, Vladimir.
Voilà. En cas d'endommagement des boîtes noires, peut-on toujours exploiter les données? Et dans ce cas-ci, peut-on falsifier les données? Je pense surtout à la boîte noire qui enregistre les communications dans la cabine.
Alors Jean Serra, effectivement, le directeur du bureau d'enquête et d'analyse là vient d'indiquer aujourd'hui qu'effectivement il y avait la possibilité dans les semaines à venir, dans quelques semaines, d'avoir justement un scénario possible de l'accident en raison des premiers éléments qu'ils ont pu recueillir en examinant les boîtes noires. Est-ce que les boîtes noires sont toujours utilisables? Il semblerait que dans le cas d'espèce, il y a une des boîtes noires qui a été relativement endommagée.
Voilà, alors on va rester très simple pour tout le monde. Les boîtes noires, il y en a deux. Une qui enregistre tous les paramètres techniques, c'est-à-dire depuis la quantité de carburant, la vitesse des moteurs, la vitesse de l'avion, l'altitude, la position des gouvernes, enfin toutes ces choses-là, il y a des centaines de paramètres qui sont enregistrés seconde par seconde. La deuxième boîte noire, c'est le fameux magnétophone, entre guillemets, qui enregistre tous les sons que l'on entend dans le poste, c'est-à-dire les discussions entre le commandant de bord et le copilote, le bruit des alarmes. S'ils ont paniqué, on va l'entendre. S'ils ont eu des phrases, on va les entendre. On va entendre les dernières 30 minutes. Ça, c'est enregistré sous une forme un petit peu comme votre ordinateur, votre tablette, ou je ne sais quel type d'ordinateur vous avez. C'est enregistré sous forme informatique, donc sur des petites plaquettes sur lesquelles il y a des petits logiciels. Et donc, effectivement, ça peut être abîmé. Mais on peut sortir ce que l'on fait là en ce moment. Les deux boîtes noires qu'ils ont, ils sortent les éléments de ces plaquettes à l'intérieur de la boîte et ils vont aller les mettre sur un ordinateur qui fonctionne bien et essayer de recopier toutes les données. Dedans, trois solutions. La première, tout est bon, on recopie, il n'y a plus qu'à les lire et on aura la lecture des deux boîtes noires dans les heures qui viennent. Deuxième chose, il manque des éléments, parce que il y a eu soit de forts courants électromagnétiques, soit un choc puissant, soit certaines parties de ces éléments de plaquettes qui sont cassées. Il va falloir essayer de reconstruire. Alors la question essentielle que vient de poser Vladimir, est-ce qu'on peut falsifier?
Eh oui.
il faut bien comprendre que dans tous les cas de figure, quoi qu'il advienne, on peut toujours falsifier quelque chose. Mais, dans le cas qui nous intéresse, ce ne sont pas 3-4 experts français ou maliens qui vont développer ça. Mmh. Non. C'est fait en présence de juristes, de personnes venant d'Algérie, du Mali, de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Espagne, de la France. C'est fait en présence de tous ces spécialistes. Donc, falsifier, ça paraît délicat. Je ne vois pas trop comment ils pourraient faire.
D'accord. Hein? Oui, effectivement.
C'est fait. Sachez qu'il y a des procédures judiciaires, c'est-à-dire avec des juges qui ont débuté. Mmh. Et donc maintenant, on ne peut plus toucher à ces boîtes noires sans l'aval de la justice, mais de la justice française, malienne, espagnole, algérienne,
etc. De tous les ressortissants qui faisaient partie de
tout
de
à ce, fait. Très bien. Donc ça limite les possibilités de falsification.
Très bien.
Le troisième cas, c'est tout est détruit. Effectivement, là, on ne récupérera rien. Mmh. Mais visiblement, sur les deux boîtes noires, une, celle qui enregistre les bruits dans le poste, a l'air d'être esquintée. Mmh. L'autre a l'air d'être relativement en bon état. Une seule des deux nous suffit à savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, oui, l'idéal, oui. C'est d'avoir les deux.
Bien sûr. Merci beaucoup, Jean Serra, pour ces explications. On va repasser par le standard. Vous restez avec nous. On va repasser par le standard et accueillir Ibrahim pour une autre série de questions. Bonjour, Ibrahim. Vous êtes à Bamako. Ibrahim, êtes-vous en ligne avec nous? Bon, nous avons perdu Ibrahim. Je vais me faire le porte-parole d'Ibrahim pour poser les questions de cet auditeur de Bamako. Alors, Jean Serra, Ibrahim nous demande comment la carcasse de l'appareil a été identifiée et quelles sont les principales pistes sur les causes probables de l'accident.
Alors, comment l'avion a été identifié? Première chose, les premières personnes qui ont vu l'avion tomber, je dis bien tomber, ce sont des bergers qui sont dans cette région et qui ont vu un avion tomber en feu. Ça, c'est le premier point. Mmh. Deuxième chose, nous avons eu des gens du Burkina Faso, des forces militaires du Burkina Faso qui sont intervenus immédiatement et puis qui ont repéré l'épave, enfin, les morceaux de l'épave. Donc, ils ont dit, il y a un avion qui est tombé là. Je rappelle qu'on cherchait un avion. Donc, s'il y a une épave et qu'au même endroit, on a perdu un avion, il y a de fortes chances que les deux soient liés.
Oui.
Et ensuite, des forces maliennes, françaises sont arrivées sur place et ont repéré tout de suite des morceaux caractéristiques de l'avion de la Swift Air, qui fait qu'il n'y a plus aucun doute sur quelle est l'épave que l'on vient de trouver dans cette zone à côté de Gossy.
Alors, Jean Serra, quelles sont les principales pistes sur les causes de l'accident en deux ou trois petites phrases?
Alors, tout le monde est en train de nous parler de la météo. Bon, zone météo très délicate à cette période de l'année dans cette zone. Ok, je veux bien. Pour moi, je pense que ce sera probablement un ensemble de faits, à la fois la météo, plus derrière d'autres causes qui se sont cumulées, qui ont fait qu'à un moment donné, l'avion est parti en chute. Ça peut être perte d'aileron, l'avion détruit en partie parce qu'il est passé dans des gros nuages de grêle. Ça peut être des fautes de pilotage. Ça peut être une rupture fondamentale de l'avion qui fait qu'il n'est plus gouvernable et donc il est parti en vrille. Ça peut être aussi, ne l'oublions pas, tout simplement une bombe à bord.
Très bien. Merci beaucoup Jean Serra. On repasse au standard. Cette fois, c'est Brahima qui est à Waïgouya, au Burkina Faso, qui est en ligne. Bonjour Brahima.
Bonjour, je suis Jean Quadio.
Bienvenue, on vous écoute.
Ma première question, quelles sont les procédures à suivre en cas de mauvaises conditions météo? Le changement de trajectoire pour éviter un orage est-il systématique?
D'accord. Jean Serra, quelles sont les procédures? Là aussi, essayez de faire court parce qu'on a encore beaucoup d'autres questions. Quelles sont les procédures à suivre par les pilotes dans ce cas de figure?
Brahima, je vais être très court avec vous, c'est simple. Le commandant de bord est le seul responsable. Il y a quelque chose d'énorme qui est devant vous, un nuage extrêmement actif, eh bien je l'évite. Après, j'appelle le contrôle aérien pour dire, je vous informe que je suis parti à gauche ou à droite de la route, mais c'est d'abord le commandant de bord qui évite. Mmh. Si vous avez le temps, alors là, vous demandez au contrôle aérien, vous dites, pour éviter un nuage, je demande à altérer ma route de 30 degrés à gauche ou 30 degrés à droite. Mmh. Voilà.
Très bien. Ibrahima, vous avez une deuxième question.
Oui, oui. Maintenant, ma deuxième question est, comment peut-on expliquer que l'on ne trouve pas de corps des victimes après que l'avion s'est désintégré?
Oui. Jean Serra.
Écoutez, je vais être malheureusement très très court sur ce sujet. Visiblement, l'avion est tombé pratiquement à la verticale à une vitesse folle. Mmh. Et il est carrément pulvérisé. Honnêtement, je regarde beaucoup tous les problèmes d'accident d'avion. Je n'ai jamais vu un avion disloqué à ce point, mmh, avec des morceaux aussi petits, ce qui est explique la vitesse à laquelle cet avion a percuté le sol. Donc, vous comprenez bien, sans être macabre, que si on arrive à briser des morceaux d'acier en tout petits morceaux, on imagine facilement ce qui peut se passer pour les individus qui étaient à bord de cet avion.
Tout à fait. Voilà, Brahima, les réponses à vos questions. On repasse par le standard pour une autre série de questions avec Victor qui est à Cotonou. Bonjour Victor.
Oui, bonjour Monsieur Zéphirin.
Vous avez deux questions, on vous écoute.
Oui, je voudrais commencer par souhaiter mes sincères condoléances aux familles pleurées dans les crashs de Air Algérie et Malaysian Airlines. Alors, en cette ère de mondialisation et de globalisation, de même que de la technologie de pointe actuellement que nous traversons actuellement, on ne peut plus tolérer les crashs d'avions de nos jours, tout en les traduit en justice les compagnies aériennes. De même que les concepteurs d'avions, et aussi les pilotes et architectes d'avions. Puisque nous...
Quelle est votre question?
Une technologie... Oui.
Quelles sont vos questions, Victor, s'il vous plaît.
En matière de sécurité aérienne, oui. Oui, c'est tout ça qui m'amène à vous poser deux questions essentielles, à savoir la première.
Allez-y, posez vos questions, il reste très peu de temps. Oui.
Quelles sont les mesures de sécurité? Quelles sont les mesures de sécurité
qui existent aujourd'hui?
Existantes et sont-elles suffisantes?
Très bien. Alors, écoutez, Jean Serra, oui.
Oui, je vais être clair avec vous, Victor. Les mesures de sécurité n'ont fait que s'améliorer avec le temps. Mais, la sécurité ne sera absolument jamais à 100%. Ensuite, deuxième point, la sécurité, si vous parlez d'événements style des bombes à bord, style des personnes à bord. Oui. Bon, Kuala Lumpur, moi j'ai été à Kuala Lumpur, j'ai fait des vols Hajj au départ de Kuala Lumpur, je me rappelle être passé au filtre de Kuala Lumpur, j'aurais pu mettre n'importe quoi dans mes poches, jamais ça aurait été vérifié. Voilà. Donc, après, on sait très bien qu'il y a le MH370 qui a disparu au décollage de Kuala Lumpur. On a découvert par la suite qu'il y avait 6 personnes à bord, donc qui avaient des faux papiers.
Oui.
Donc, la sécurité n'existe pas. Mais elle n'existe pas, totale, je veux dire. Elle n'existe pas plus à Kuala Lumpur qu'en Afrique, mais qu'en Europe, qu'à Paris-Orly, qu'à Charles de Gaulle. Il y a une sécurité qui s'améliore, mais elle ne sera jamais à 100%. Jamais. Pour bien le comprendre, ça.
Le risque...
Par contre, oui, nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, je dis toujours, vous savez, sur un accident grave, comme celui qui vient d'arriver, le problème, c'est plus l'accident. Ça y est, il est fini, il est passé. Mmh. Il est passé, c'est terminé, on peut plus rien faire. Ce qui compte maintenant, c'est d'en sortir toutes les leçons, de manière à ce que, à l'échelon de tous les aéroports qui existent dans le monde, on puisse améliorer
la sécurité,
dans la fabrique des avions.
Très bien. Merci infiniment, Jean Serra, d'avoir été avec nous tout au long de cette session de questions des auditeurs. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes pilote et ancien commandant de bord. Merci pour votre éclairage. Restez à l'écoute. On se retrouve dans 10 minutes après le journal pour vos réactions et vos commentaires sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique, et cela à la faveur de l'ouverture prochaine du sommet Afrique-États-Unis à Washington.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de